Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 11. 20 août 2025. La mer était d'un bleu magnifique. La couleur rose du sable était exactement comme sur les photos et comme l'avaient décrit ses amis qui y étaient venus. Nicolas Testé voulait visiter la Crète depuis longtemps déjà, et c'est Jeanne qui lui avait proposé cette escapade estivale, malgré la foule de touristes à cette saison. Ils étaient allongés sous un grand parasol sur cette plage idyllique de Elafonissi quand Nicolas entendit son téléphone vibrer. Il n'y fit pas attention. Nicolas Testé était astronaute à l'ESA depuis 2009. Il avait déjà fait 2 séjours de 6 mois à bord de l'ISS. Et il n'avait qu'un seul rêve depuis qu'il était enfant, marcher sur la Lune. Il avait tout sacrifié pour ce rêve, y compris sa vie de famille. Lorsque l'Agence spatiale européenne avait lancé une campagne de recrutement d'astronautes en 2008, Nicolas avait immédiatement candidaté pour faire partie du corps européen des astronautes. Il avait été sélectionné l'année suivante parmi les 8413 postulants. Il n'avait alors que 31 ans et était le plus jeune des spationautes recrutés par l'Agence spatiale européenne. Après 5 années d'entraînement divers et variés et de sport intensif, l'ESA avait finalement décidé d'envoyer Nicolas vers l'ISS pour une durée de 6 mois. Mais il fallait qu'il s'entraîne encore pendant 2 ans. Il avait décollé le 17 novembre 2016 à bord d'un vaisseau Soyouz depuis Baïkonour, sous les yeux embués de Jeanne. Il s'était alors fait connaître du grand public en utilisant les réseaux sociaux depuis l'espace pour poster des photos et des anecdotes sur la vie en apesanteur. À son retour, les gens l'adoraient. Il n'avait pourtant rien fait de significatif dans la station spatiale, si ce n'était dérouler des travaux pratiques de biologie et de physico-chimie de niveau première année universitaire. Et puis, en 2019, l'Agence spatiale européenne avait à nouveau proposé son nom à la NASA pour faire partie d'un équipage américain envoyé vers l'ISS dans un vaisseau de Galactix, à qui la NASA avait confié le transport de ses astronautes. Il s'était à nouveau arraché à la gravité terrestre le 23 avril 2021. C'était vers la fin de cette seconde mission que Nicolas s'était passablement ridiculisé aux yeux des scientifiques. Des vrais. Comme lors de la première mission, il avait passé l'essentiel de son temps en orbite à prendre des photos de la Terre et surtout de sa pollution lumineuse en s'extasiant de cette beauté superflue. Il tweetait encore plus que 4 ans auparavant. Ce qui avait porté le ridicule à son paroxysme, c'était quand, seulement 3 jours avant de quitter la station spatiale, Nicolas avait fait un tweet où il s'enthousiasmait du fait qu'en regardant dans le hublot situé à l'opposé de celui qu'il squattait toujours, on pouvait apercevoir des milliers d'étoiles et même la Voie lactée. Après 2 séjours en orbite et presque 400 jours en tout au-dessus de l'atmosphère terrestre, il découvrait la possibilité de regarder les étoiles, alors qu'il devait se préparer au retour. Cette seconde mission avait duré presque 200 jours, qui était la durée maximale désormais autorisée pour les astronautes américains et européens pour leur éviter des graves problèmes de santé. La NASA connaissait le phénomène depuis le début des années 2000. Les séjours de longue durée dans l'espace affectaient durablement la vision des astronautes. 80% des astronautes ayant séjourné plus de 6 mois en orbite avaient des problèmes de vision une fois rentrés, des problèmes qui ne disparaissaient pas. En 2005, l'astronaute américain John Phillips avait séjourné 6 mois dans la station spatiale. Au milieu de son séjour, lors d'une pause, il regardait la Terre par le hublot, mais elle lui apparaissait floue. Il lui était impossible de faire le point. Cela lui avait paru vraiment étrange, car il avait toujours eu une vision parfaite de 10 sur 10 à chaque œil. Il pensait que ce n'était que passager et que ça allait passer. Mais ce ne fut pas le cas. Lors des analyses médicales post-mission, les médecins de la NASA avaient trouvé que sa vision était passée de 10 sur 10 à 2 sur 10 en l'espace de 6 mois. Des tests approfondis avaient alors suivi. IRM, scan de la rétine, tests neurologiques et même une ponction lombaire. Les résultats montrèrent que c'était ses yeux qui avaient changé. Le fond de ses globes oculaires s'était aplati, repoussant la rétine en avant et ses nerfs optiques étaient enflammés. Le cas John Phillips fut le premier à être reconnu de ce mystérieux syndrome qui affectait une écrasante majorité des astronautes effectuant des longs séjours en apesanteur. En 2009, Michael Barratt était astronaute sur une mission de 6 mois dans l'ISS et lui aussi s'aperçut que sa vision s'était détériorée. Or, lui et son collègue Bob Thirsk, autres membres de l'équipage, avaient tous les deux une formation de médecine et ils avaient décidé de s'examiner mutuellement. Ils trouvèrent sur chacun d'eux des indices de nerfs optiques enflés. Après avoir reçu du matériel plus spécifique envoyé par la NASA, le syndrome de Phillips avait été retrouvé pour l'un comme pour l'autre, avec un aplatissement des globes oculaires. La cause de ces problèmes oculaires n'était pas complètement élucidée. La théorie la plus aboutie pour expliquer le phénomène fut nommée le syndrome de déficience visuelle par pression intracrânienne, le syndrome VIIP, Visual Impairment Intracranial Pressure. Sur Terre, la gravité produisait une circulation des fluides corporels vers le bas du corps. Mais dans l'espace, les astronautes étaient en apesanteur et les fluides du corps n'avaient plus de circulation privilégiée due à la gravitation. Les chercheurs pensaient qu'un surplus de liquide dans la boîte crânienne y produisait une forte augmentation de la pression, une pression qui se retrouvait à l'arrière des globes oculaires et pouvait alors produire un écrasement du nerf optique. La NASA prenait désormais très au sérieux le syndrome VIIP, qui était reconnu comme étant un problème important à résoudre dans l'objectif de mission habitée de longue durée, vers la Lune ou Mars, par exemple. Le concept de surpression intracrânienne n'avait jamais pu être testé expérimentalement en orbite, la seule méthode étant une méthode invasive, consistant à effectuer une ponction lombaire ou une opération chirurgicale pour percer le crâne du patient. Les médecins de la NASA ne pouvaient que faire des comparaisons sur les astronautes entre avant leur décollage et après leur retour sur Terre. Le syndrome VIIP était étudié dans divers instituts qui cherchaient à mettre au point des moyens non-invasifs pour tester la pression intracrânienne, sans réel succès pour le moment. Michael Barratt, qui était devenu entre-temps le directeur des vols habités de la NASA, estimait qu'il faudrait étudier la pression intracrânienne dans l'espace, par une technique invasive, comme par exemple la pose d'une sonde implantée dans le crâne d'un astronaute pour mesurer la pression, à l'image de ce qui avait été fait plusieurs années auparavant pour étudier la pression sanguine dans le cœur, étude pour laquelle des astronautes s'étaient vus poser des cathéters au niveau du cœur lors d'une mission dans les années 90. La NASA estimait que le syndrome de déficience visuelle par pression intracrânienne était le problème numéro 2 pour les vols habités de longue durée, le premier restant bien sûr l'irradiation par le rayonnement cosmique. L'agence spatiale américaine estimait qu'avant le premier voyage vers Mars, qui devrait durer de 6 à 9 mois, le syndrome VIIP devrait être beaucoup mieux compris. Et selon Michael Barratt, il se pouvait que ce ne soit que le sommet d'un iceberg. Il pensait que les manifestations ophtalmiques de ce phénomène cachaient quelque chose de plus global. Richard Williams, directeur de la santé à la NASA, s'accordait à dire que c'était l'ignorance sur le syndrome VIIP qui posait le plus grand risque pour les vols de longue durée. 6 mois après son retour sur Terre, la vision de John Phillips s'était un peu améliorée, passant de 2 sur 10 à 4 sur 10, mais n'avait plus bougé depuis. Nicolas avait remarqué qu'il avait de plus en plus de mal à lire des petits caractères depuis son retour de sa deuxième mission. Il se demandait si c'était dû au syndrome VIIP ou plus simplement à la presbytie qui affectait presque tous les quinquagénaires du monde occidental. Nicolas avait été aussi beaucoup irradié au cours de ses missions dans l'ISS. La première s'était déroulée sur la fin du cycle solaire 24, et la seconde dans le creux d'activité, alors que le cycle 25 peinait à démarrer. Le fait que l'activité magnétique du Soleil soit très faible à ce moment-là induisait que le flux de rayons cosmiques galactiques des noyaux d'atomes ultra-énergétiques était peu atténué ou défléchi par le champ magnétique et le vent solaire. Les astronautes en orbite basse autour de la Terre subissaient de plein fouet ces particules ionisantes. Paradoxalement, il était préférable d'effectuer un séjour à bord de l'ISS durant les maximums d'activité solaire, comme par exemple autour de 2003, 2014 ou en ce moment, même si le Soleil pouvait produire des éruptions et des particules énergétiques sporadiques. Il valait mieux ça qu'un flux continu de rayons cosmiques galactiques. Durant son premier séjour en orbite, Nicolas avait reçu une dose de 0,6 millisievert par jour en moyenne, ce qui faisait 117 millisieverts cumulés. Et durant son deuxième séjour, le niveau avait augmenté à 0,8 millisievert par jour, ce qui faisait 159 millisieverts. Ces deux missions l'avaient irradié avec une dose équivalente de 276 millisieverts. Nicolas connaissait parfaitement la problématique des rayons cosmiques, étant pilote de ligne avant d'avoir intégré le corps des astronautes. Il avait l'habitude de toujours porter sur lui un dosimètre pour enregistrer la dose reçue au cours de ses vols long courriers. Ces deux séjours dans l'ISS étaient équivalents à 4600 vols Paris-New York en termes de doses reçues. Il n'en avait fait qu'une vingtaine avant de quitter Air France. Nicolas savait aussi que sur le sol lunaire, la dose reçue était tout sauf négligeable. Mais malgré ça, son rêve restait intact. Il se disait qu'il avait déjà atteint un point de non-retour et que quelques dizaines de millisieverts de plus ne changeraient pas la forme de son futur cancer. 57 microsieverts par heure, soit 1,37 millisieverts par jour. C'était la dose moyenne qu'avait mesurée l'atterrisseur chinois Chang'e 4 à la surface de la Lune, où il s'était posé en janvier 2019 sur la face cachée, en plein dans le minimum d'activité solaire. Cette dose de rayonnement journalière était environ deux fois plus élevée que celle reçue par les astronautes à bord de l'ISS. Et elle était 200 fois plus élevée que la dose de la radioactivité naturelle terrestre. Les Chinois s'intéressaient de près aux conditions que devraient rencontrer leurs futurs explorateurs lunaires en quête de précieux minerais. La sonde Chang'e 4 qu'ils avaient envoyée était munie d'un petit détecteur de particules développé par des chercheurs allemands de l'université de Kiel. Il avait été conçu spécifiquement pour mesurer la dose de rayonnement induite par le rayonnement cosmique, les GCR, ainsi que par les rayonnements secondaires, des neutrons et des photons gamma, qui étaient produits dans la roche lunaire par des interactions de GCR. Ce dosimètre opérationnel, nommé LND, Lunar Lander Neutron and Dosimetry, avait permis pour la première fois de mesurer de façon instantanée le débit d'équivalent de dose et de le suivre dans le temps durant plusieurs jours. Dans le passé, les astronautes des missions Apollo avaient été munis de dosimètres individuels, mais il ne s'agissait que de détecteurs à intégration assez rudimentaires qui fournissaient la dose totale, intégrée sur toute la durée du voyage aller-retour vers la Lune. Durant les deux premiers jours lunaires, deux fois 14 jours terrestres, qui avaient suivi l'alunissage de Chang'e 4 entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019, le dosimètre avait mesuré le débit de dose une dizaine de fois par jour terrestre. Ce débit de dose était assez stable dans le temps, ce qui démontrait une origine exclusivement due aux rayons cosmiques galactiques et non à l'autre composante des rayonnements spatiaux que sont les événements de particules solaires sporadiques, des protons énergétiques provenant du Soleil et arrivant par bouffée lors d'éruptions ou autres éjections de masse coronale, très aléatoires. Les chercheurs chinois et allemands avaient montré qu'au 1,37 millisievert par jour, il fallait ajouter 23% de doses induites par les rayonnements secondaires du sol lunaire. Le 2 février 2019, alors que le dosimètre de Chang'e 4 était en cours de fonctionnement, la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, était passée juste au-dessus de la position de la sonde chinoise. Et LRO était munie, elle aussi, d'un instrument de mesure des rayonnements, appelé le Cosmic Ray Telescope for Effects of Radiation, CRATER, et qui était en fonction ce jour-là. Les deux instruments voyaient donc exactement les mêmes conditions héliosphériques. Les débits de doses brutes dans le silicium avant toute conversion, qui étaient mesurés respectivement par le dosimètre germano-chinois LND sur la surface lunaire et CRATER en orbite, étaient de 10,2 microgrès par heure et 10,0 microgrès par heure, des valeurs quasi identiques, qui rendaient ces mesures extrêmement robustes. Nicolas pensait aux rayons cosmiques en somnolant sous le parasol. Les doses de rayonnement ionisant reçues en orbite et sur la Lune étaient sans commune mesure avec la radioactivité naturelle ou artificielle sur Terre. Le débit d'équivalent de doses reçues du fait de la radioactivité naturelle à la surface de la mer était d'environ 6,6 microsieverts par jour, dont 0,8 microsieverts par jour issus des rayons cosmiques, le restant provenant de la radioactivité des roches, du radon et des divers éléments radioactifs absorbés qui formaient le corps humain. S'ajoutaient à ces rayonnements naturels tous les rayonnements artificiels, produits par la médecine principalement. Radiographie, scanner à rayons X, scintigraphie et radiothérapie, ce qui nous amenait à 3,5 millisieverts par an, en moyenne par personne. Le travailleur de la centrale de Fukushima, accidenté en 2011, qui avait été le plus exposé à l'époque, avait reçu une dose de 679 millisieverts, à peine 2,5 fois plus que la dose de Nicolas. 14 ans après l'accident nucléaire japonais, les zones qui étaient encore interdites à la population étaient celles qui produisaient un surplus de doses annuelles supérieures à 20 millisieverts, équivalent à 28 jours dans l'ISS. Les zones vertes, qui montraient une dose annuelle entre 1 millisievert et 20 millisieverts, équivalent à entre 1,5 jours et 28 jours dans l'ISS, devaient être décontaminés et les habitants pouvaient y travailler, mais ne pouvaient pas y passer la nuit. La NASA, pour son programme Artemis, auquel Nicolas rêvait depuis des années, prévoyait des missions lunaires d'une semaine pour les toutes premières, mais qui devaient augmenter en durée pour atteindre 1 à 2 mois par la suite. Ce n'était pas que quelques millisieverts que Nicolas envisageait, mais probablement encore plusieurs centaines, car il ne voulait pas se contenter de seulement quelques jours sur la surface grise. Des mesures de débit d'équivalent de dose avaient aussi été effectuées lors d'un voyage vers Mars, par la sonde Mars Science Laboratory de la NASA, qui emportait le rover Curiosity, ainsi que sur la surface de la planète rouge. Des valeurs assez proches des valeurs lunaires et de l'ISS avaient été mesurées, 1,8 millisievert par jour durant le voyage, puis 0,64 millisievert par jour sur la surface. L'exposition chronique au GCR et sporadique au SEP n'induisait pas chez l'homme seulement des cancers, mais elle pouvait aussi causer d'autres maladies fortement handicapantes, allant de la cataracte jusqu'aux maladies dégénératives du cerveau, en passant par des effets aigus sur d'autres organes vitaux, comme le cœur. Nicolas connaissait tous les risques, et il s'en foutait. Il n'aurait jamais d'enfant. « On y retourne ?» lança Nicolas à Jeanne. « Ton téléphone a vibré, » répondit sa femme. « M'en fous, moi j'y retourne, elle est trop bonne. J'irai un peu plus tard, je termine mon chapitre. » Nicolas se leva d'un bond et trottina vers le bord de l'eau turquoise, alors que des enfants trop blonds criaient autour d'eux. Jeanne lisait un essai sur l'agroécologie. Elle avait du mal à décrocher du travail, même en plein mois d'août, sur la plus belle plage de Crète, et sans doute d'Europe. Elle avait tout sacrifié pour permettre à Nicolas de devenir ce qu'il était devenu. Elle avait accepté de renoncer à fonder une famille, comme elle l'avait pourtant tant désiré étant plus jeune. Quand elle était élève ingénieure à l'agro à la fin des années 90, elle n'imaginait pas la vie autrement que d'être une mère d'au moins 3 enfants. Puis elle avait rencontré Nicolas quand il n'était encore que pilote de ligne chez Air France. Elle avait dû faire le choix crucial au tournant de leur trentaine. Au moment où Nicolas avait souhaité candidater pour être astronaute en 2008, ils avaient discuté pendant une nuit entière sur tout ce que ça pouvait impliquer pour eux deux s'il était retenu. Elle avait cédé. 10 minutes plus tard, Nicolas revint, toujours en trottinant, et se pencha vers Jeanne sous le parasol. Il faisait tomber des gouttes sur ses jambes blanches. « Alors, tu viens? Elle est super chaude, c'est dingue! Ton téléphone a encore vibré, hein? » « C'est quoi encore ?» fit Nicolas en cherchant son portable dans le sac. « Merde, c'est les A, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Nicolas écouta sa messagerie. Jeanne le regardait et voyait son visage changer de physionomie. Le sourire qu'il arborait en sortant de l'eau avait brutalement disparu pour laisser place à une expression dure. « Qu'est-ce qui se passe ?» fit Jeanne. Nicolas raccrocha et laissa tomber son portable dans le sac de plage en regardant dans le vide. Blême. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils évacuent l'ISS en urgence !» fit Nicolas. « C'est-à-dire ?» Il y a des débris un peu partout, la station a été touchée, le télescope Hubble aussi, il y a trop de risques, ils abandonnent l'ISS, ils se barrent. Comment ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jeanne. La NASA évacue la station et on ne pourra plus y aller avant longtemps. Les lancements sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Ils sont partis en urgence avec le Soyouz et le Dragon. Tu veux dire que c'est fini? Tout est fini? Attends, ça veut dire que il y a trop de débris au niveau de la station. Il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas quoi, mais il y a trop de débris et les lancements sont interdits depuis les États-Unis. Mais s'il y a des débris, ça veut dire qu'ils ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que les lancements resteront interdits. C'est fini, je te dis, c'est fini. Le message de l'EAC prévenait Nikola Tesla que les activités des astronautes européens allaient probablement être très perturbées à partir de maintenant du fait de l'évacuation en urgence de l'ISS et de l'interdiction des lancements jusqu'à nouvel ordre. Le patron des astronautes l'incitait à rentrer à Cologne au plus tôt et d'écourter ses vacances. « Faut que je rentre à Cologne !»« Oh non, on vient d'arriver !» fit Jeanne. « Tu peux rester, toi, profite !» Bah, je vais pas rester toute seule ici. De toute façon, dis-toi bien qu'on sera bientôt très souvent ensemble. Hein. Si l'activité spatiale s'arrête comme je le pressens, bah, je serai tout simplement au chômage technique. Dis pas de bêtises. Eh, je suis sérieux. À quoi je servirais si on peut plus aller en orbite, hein? À rien. Tout ça pour rien. Tous ces sacrifices pour que dalle. Nicolas commençait à s'énerver. Jeanne ne l'avait jamais vu comme ça. Non mais tu te rends compte? On a fait tout ça pour rien, putain, pour rien! J'irai jamais sur la Lune, c'est fini! Des enfants couraient sur le sable fin en criant et en s'arrosant avec une sorte de gros pistolet à eau rose. Nicolas reprit son téléphone et rappela Stefano Grossi. Il mit le haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Demanda Nicolas sur un ton énervé comme si son interlocuteur était responsable de quelque chose. Comme je le disais dans mon message, la NASA a pris la décision d'évacuer. Un panneau latéral a été touché par un impact, et juste avant, c'est le télescope Hubble qui a été endommagé. On observe une très forte recrudescence de débris dans les orbites entre 400 et 600 km. Ils sont déjà rentrés? Oui, ce matin, le Dragon d'abord avec les 3 Américains, et ensuite le Soyouz avec les 2 Russes. Donc il n'y a plus personne? Non, plus personne en orbite? Dans l'ISS, non. Mais il y a encore 2 Chinois dans Tiangong. Et ils évacuent pas, eux ? Fit Nicolas. On ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. La NASA a fortement incité la CNSA à faire comme nous. Et l'ESA était d'accord avec la NASA sur cette décision ? Tu sais, Nicolas, même si on avait été en désaccord... Ouais, bien sûr. Les Russes ont suivi, hein, tu vois. Alors, ça m'étonne presque. Ça veut dire que c'est vraiment grave, rétorqua Nicolas. Tu imagines? On parle d'un impact réel sur un panneau latéral, là. Ouais. Tu peux aller voir ce que dit la NASA. Ils ont fait un communiqué et une conférence de presse. Tu auras quelques détails. J'ai appelé tous les astronautes européens pour les prévenir de la situation. Comment tu vois les choses pour la suite? Demanda Nicolas. Bah, ça serait bien que tu rentres à Cologne pour souder l'équipe et réconforter les recrues, répondit Stefano. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais faire, reprit Nicolas. Tu pourrais être là dans combien de temps? Bah, je suis pas loin, on est en Crète. Je serai à Cologne demain après-midi. Très bien, c'est très bien. Merci Nicolas, répondit le directeur du Centre européen des astronautes. Nicolas semblait s'être calmé, mais il bouillait à l'intérieur. Il avait compris que les Chinois resteraient en orbite, alors que c'était terminé pour les autres. Je viens avec toi, dit Jeanne. Il reviendra ici une autre fois,